Alors bonjour à toutes et à tous. La librairie Mola a le plaisir d'accueillir cet après-midi les éditions Aquileos, des éditions situées à Talence, et quatre de leurs auteurs, avec par ordre d'apparition Aurélien Rosset pour la BD Emprise, Ronan Touloit qui a fait Bloc 109 et Le Roi des Ribauds plus récemment. Édouard Court pour Héraclès. Ensuite, à ma droite, j'ai Emmanuel Bouteille, Mara pour Clouse, Richard Saint-Martin et Diane Le Cerf. Donc, dans un premier temps, je vais poser quelques questions aux fondateurs, aux éditeurs, essayer de dresser un petit portrait rapide des éditions Aquileos. Qui sont donc qui ont été fondés en 2002, si je ne m'abuse, par donc Emmanuel et Richard Saint-Martin. Dans une interview, j'ai lu que c'était un peu né d'une frustration, en fait. Et est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur cette frustration?
Oui, en fait, la frustration vient du fait. Enfin, au préalable, avec Emmanuel, on s'est rencontrés en stage chez un éditeur. Et en l'occurrence, pendant ce temps, on a vu effectivement passer quelques projets qui n'avaient pas été choisis, d'autres qui étaient faits, mais d'une façon où nous, assez pompeusement, on disait on aurait fait mieux. Et donc, on a, à la fin de ce stage, on a pris une autre voie, on a travaillé, et puis on s'est retrouvé en fait quelques années après dans une situation où on s'est dit, on en parle depuis des années de cette idée de faire de la BD, d'être éditeur, non pas dessinateur, puisque ça, on est très mauvais. Scénariste, a priori, on n'ose pas. Donc, on s'est dit, ben voilà, faut y aller, il faut se lancer. Et c'est comme ça qu'on est parti, en fait. Avec derrière, effectivement, la petite expérience chez l'éditeur. Et on s'est dit, ben, on va faire pareil, on va faire mieux. Faire autrement.
Oui, évidemment, on était jeunes et un peu idiots, mais bon, on avait envie de faire des choses, voilà, des choses peut-être un peu différentes, ou en tout cas de faire publier, de faire connaître des auteurs qui n'étaient pas forcément publiés. Ça c'est par nos expériences diverses. Moi, j'ai travaillé chez un petit éditeur de bande dessinée qui n'existe plus maintenant, mais j'avais pu rencontrer des auteurs et j'avais rencontré notamment quelques auteurs allemands qui cherchaient à être édités en France et qui n'avaient pas d'éditeur. Je trouvais ça dommage. Donc voilà, c'est parti de cette idée qu'on avait envie de choisir, en fait, de travailler dans l'édition et puis même d'avoir le choix de faire ce qu'on allait publier. Donc on s'est lancé fin 2002 et on a commencé surtout par faire des projets qui étaient des achats de droits, parce que ça nous permettait de publier des livres qui étaient déjà existants, mais toujours déjà dans cette optique, enfin plutôt déjà dans cette optique de faire découvrir des choses qu'on ne voyait pas trop. Et puis après, de publier des livres qu'on aimait, quoi. Tout simplement, je dis souvent que la ligne éditoriale, c'est juste de faire ce qu'on a envie de lire. Et c'est resté la ligne directrice. Et à partir du moment où on a publié quelques livres, dès qu'on existe un peu dans le monde éditorial, et on commence à recevoir des projets, puisque évidemment, l'idée, c'était aussi de faire de la création. C'était aussi de pouvoir recevoir des projets, d'avoir ce plaisir de l'éditeur qui est de recevoir tous ces projets et de se dire, ah bah tiens, ça a l'air intéressant, et de choisir ce qu'on a envie de publier.
Oui, parce que c'est une remarque que je me faisais en regardant l'ensemble de votre catalogue, c'est que vous avez quand même une grosse proportion de premiers projets, en fait. Ne serait-ce que les auteurs présents à la table, c'est tous enfin, leurs premières BD ont toutes été publiées chez Aquileos. Et bon, il y a beaucoup de moins en moins, mais il y a beaucoup quand même de maisons indépendantes, mais qui n'ont pas forcément la même proportion de premiers projets dans leur catalogue. Et c'est donc, ouais, c'est vraiment une volonté de votre part au départ de développer, enfin, de lancer des auteurs.
C'est encore une fois, c'est surtout, je pense, publier ce qu'on aime. C'est vrai que quand on a commencé, à partir du moment où on est une très jeune maison d'édition, Il est évident qu'on ne reçoit pas des projets de gens qui sont déjà installés chez d'autres éditeurs, ou en tout cas pas de manière fréquente. Donc on a surtout reçu ce genre de projet. Et puis en même temps, on était, ce qu'on disait souvent aux auteurs avec qui on travaillait, c'est on va être partenaire, on est dans la même aventure, c'est-à-dire vous commencez et nous aussi, quoi. Donc si nous on se développe, vous aussi et vice-versa, quoi. C'est l'idée. Et ce qui est gratifiant, c'est de voir que voilà, c'est des gens qui ont prouvé qu'on avait raison de faire confiance, de leur faire confiance. On s'en rendait compte au fur et à mesure de la production, et puis au fur et à mesure de la sortie des livres, et puis maintenant, on commence à arriver à un stade où les gens viennent nous solliciter, nous proposer des projets parce qu'ils nous connaissent nous, ce qui est une étape supplémentaire. Et ça c'est effectivement agréable. Donc c'était un peu de circonstance, je dirais, au début. Et puis après, c'est devenu un vrai plaisir de travailler comme ça, en sachant que ce qu'on essaie de donner aux auteurs, c'est bon, donc la capacité de publier leur premier projet, de les aider dans la mesure de nos moyens sur le plan créatif, si ça s'avère nécessaire, et dans la mesure de nos capacités. Et puis après, voilà, la machine est lancée. Et c'est de leur donner un terrain d'expression pour ce qu'ils avaient envie de raconter. Mais au départ, quand on reçoit un projet, c'est souvent un synopsis. J'ai gardé toutes vos ébauches de premier projet. Mais je dis ça en rigolant, mais c'est un souvenir. Ça a une vraie valeur sentimentale pour nous, quoi. Parce que je regarde les deux petits livrets que Edouard nous avait envoyés. Je les ai toujours. Pour moi, c'est super important parce que c'est de voir que c'est parti de ça. La première ébauche de Bloc 109, avec des cases en noir et blanc, le projet a beaucoup bougé, quoi. Puis vous nous aviez présenté d'autres projets. Et il y a forcément une rencontre à un moment avec les gens aussi. Donc de partir comme ça de quelque chose qui était encore un peu balbutiant, parce qu'ils sont tous ici très jeunes, beaucoup plus jeunes que nous, et de les voir comme ça prendre leur envol, c'est ça qui est vraiment très gratifiant.
Pour donner la parole aux auteurs, d'ailleurs, vous les avez rencontrés comment, Aquileos, Aurélien?
Oui. Alors, pour ma part, je crois que ça s'est fait sur un festival, parce que j'avais tendance à démarcher mes projets physiquement, aller vers les éditeurs pour avoir un contact. Voilà. Et donc, je les ai rencontrés sur le festival d'Angoulême, où j'ai déposé un dossier. Et on a eu un bref échange, et puis ensuite, par mail, quelque chose d'un peu plus constructif. Voilà.
Renaud ?
On m'a donné le micro. Donc. C'est quasiment la même chose que toi, en fait, Aurélien. Moi, c'était en 2005, donc ça date un peu, il y a 10 ans. Donc, je ne suis peut-être pas la plus vieille de l'équipe, mais je suis une des plus anciennes au sein de la structure, je crois. J'étais aussi allée, je partage la façon de faire d'Aurélien, qui va démarcher directement les éditeurs en festival. Et moi, j'ai fait pas mal d'Angoulême et de Saint-Malo avant d'être édité. Mais Aquileos m'avait déjà repéré en 2005. Et voilà, à force d'échanges par mail et tout, au final, ils m'ont donné pas mal de conseils et de critiques sur lesquels j'ai pu rebondir pour pouvoir fournir un dossier qui était publiable, quoi. Voilà.
Et je dis nous parce que c'était avec mon collègue et scénariste Vincent Brujas, avec qui on a tout construit tous les deux depuis qu'on a 18 ans tous les deux, donc, hein, depuis on se connaît depuis le lycée. On a été beaucoup voir les éditeurs, on a été chez Vendouest, on a été une fois à Angoulême, donc c'était en 2007, et où là effectivement on a déposé un premier dossier à Aquileos, c'était un des seuls éditeurs, on avait la chance de voir les éditeurs et de pouvoir en parler un peu rapidement. Malheureusement, ils étaient tellement débordés que ça a été très très rapide. Mais la chance a été qu'on leur a laissé le dossier. Et deux mois plus tard, il y avait un petit salon en région parisienne qui s'appelait Auvers sur Oise. Et on est retourné les voir, on a pu en reparler. Et puis après, ça s'est fait sur 6 mois à force d'échanges de mails, etc. etc.
D'accord. Alors, bah, moi, pour ma part, moi, je n'osais pas aller voir directement en vrai comme ça. Je me disais, je vais me faire jeter comme un malpropre, ça va me détruire tous mes espaces. Donc, moi, j'avais fait la solution par courrier, par mail. J'avais monté un dossier, donc le fameux dossier dont il parle, qui était loin de ressembler au truc final, que j'ai envoyé très largement, un peu partout, et bah, Aquilios ont été les seuls à me téléphoner au lieu de m'envoyer un message soit générique, soit légèrement personnalisé, à m'appeler, à me dire ça nous intéresse, mais il faut qu'on parle, etc. Et donc, bah, forcément, du coup, ce dialogue-là, moi, je me suis dit très bien. En plus, le nom, avec le nom du truc que je faisais, ça, voilà, il y avait un petit truc du destin, en plus de ça.
Ouais, les salons, c'est un peu le passage obligé. C'est quoi finalement les étapes indispensables pour la croissance et d'un éditeur en fait?
Si on... Oui, enfin, plus que les salons, ce sont les libraires. C'est hors libraire, on pouvait faire tous les salons que vous voulez. C'est pas le libraire, lui, va avoir l'avantage de travailler sur une période, de lire le bouquin, de le conseiller, de le travailler sur toute une période. Un salon, un festival se passe sur 2 jours, 3 jours, un week-end, et après c'est fini, on n'en parle plus. Donc nous, la seule façon pour nous de nous faire connaître, de faire connaître nos projets, de travailler les auteurs. C'était et ça reste avec les libraires spécialisés.
Et donc oui, alors dans les dernières années là qui viennent s'écouler avec pas mal de fermetures de magasins, c'est ça. Vous avez ressenti vous
on parle souvent des fermetures de magasins, mais on parle pas des ouvertures.
C'est très juste.
Et en fait, il y a aussi beaucoup d'ouvertures de magasins, à contrario. Donc, il y a des choses qui se sont... pour prendre le cas ici, par exemple, Virgin s'est fermé. Donc, des grosses enseignes ont fermé. Chapitre a fermé, ce genre de choses. Je ne vais pas dire je m'en moque, mais ce n'était pas notre cible. Ce n'est pas avec ces gens-là qu'on travaillait et qu'on travaille plus. On est toujours plus dans un rapport avec les libraires spécialisés qui ont toujours cette force de conseil, qui ont ce temps à donner, bon, pas toujours, mais qui ont quand même ce temps à donner au livre et au travail des auteurs. Donc, les ouvertures aujourd'hui se font encore et se font sur des spécialisés.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein d'anecdotes comme ça où on sort un projet et il y a un libraire ou deux ou qui va s'emparer de ce livre et faire des scores incroyables parce qu'ils ont adoré ce bouquin. Et ça, pour nous, c'est le meilleur vecteur de reconnaissance et de développement aussi. Et ce qui est bien, c'est que comme on a une politique éditoriale assez éclectique, l'idée, c'est que se dire, voilà, chaque projet, c'est d'essayer de trouver les gens qui vont accrocher à ce projet-là. Et bon, j'ai plein de souvenirs et d'anecdotes, et aussi avec des libraires de Mola, avec Sarah à propos de Pogo. Bon, ça, c'est une traduction, mais c'est l'exemple type des choses qu'on privilégie, quoi, parce que c'est vrai que les auteurs sont pas connus en général, donc il y a vraiment un pas important à faire auprès du public. Et qui peut faire ce pas? C'est les prescripteurs qui restent encore aujourd'hui. C'est les gens comme vous qui vont dire, oui, vous connaissez pas, mais regardez ça, c'est bien. C'est le coup de cœur du libraire, d'une manière. Nous, on a eu un coup de cœur d'éditeur. Et ben après, il faut qu'il y ait le coup de cœur du libraire et ensuite le coup de cœur du client qui va faire que petit à petit, les choses vont... l'auteur va pouvoir faire connaître son travail, quoi. Ce qui est difficile dans un contexte qui est comme dans beaucoup de secteurs de l'édition où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sortent.
Oui, ça, oui, indubitablement. Vous avez jamais, enfin, à une époque, vous aviez des collections, si je ne m'abuse, vous les avez supprimées assez rapidement.
Oui, en fait, on était parti sur le... sur le prince, oui, on les a fait un peu par défaut, les collections, en fait.
On vous a demandé de les faire.
Voilà, tout simplement, notre diffuseur, distributeur.
Il faut des cases.
Voilà. Il faut qu'on puisse ranger ça. C'est parfois le retour qu'on avait aussi, mais on ne sait pas où vous mettre, on ne sait pas. Donc on s'est dit, on va faire des collections. Mais en fait, on n'est pas éditeur pour rentrer des projets dans des cases. Donc ça ne collait à rien. Et donc il y a quelques années de ça, on l'a tout balayé. C'était pas, ça justifie absolument pas.
Il suffit de regarder le format des ouvrages de tous les auteurs qui sont là. Même Ronan, il a travaillé sur des formats, différentes séries qui ne sont pas présentées du même format. La première série qu'il a fait connaître, Bloc 109, il y a le premier tome qui est un one-shot, qui est un format sur du souple. Et après, c'est des formats BD traditionnels. Après, il est parti sur autre chose avec Chaos Team. Et puis là, sur Le Roi des Ribauds. Donc l'idée, c'est justement qu'on ne soit pas enfermé dans un format. On a envie qu'il puisse...
C'est ça l'avantage aussi d'Aquilios. C'est que nous, d'un point de vue auteur, on peut travailler un album totalement de A à Z, tant sur le fond et la forme. Et les formats qu'on avait décidés pour les bouquins qu'on a faits, on en a parlé avec Aquilios de concert, évidemment, mais ils étaient adaptés à ce qu'on voulait dire, donc à la forme et au fond donc de ce qu'on voulait exprimer. Que ce soit pour le Bloc 109, hein, de gros 200 pages très denses, où bah, le format un peu plus petit, plus souple, se prêtait bien. Alors que la série Bloc 109, on était sur du format classique, bon, effectivement du cartonné un peu plus classique allait bien. Et sur Chaos Team, on était vraiment sur une démarche de comics à l'américaine. Donc là, on revenait à un format à la comics et découpé en 22 pages par 22 pages, qu'on regroupait un peu à ce qui, ben, selon ce qui se fait aujourd'hui sur le marché français quand on voit de la traduction US en comics, donc type Walking Dead. Et aujourd'hui, Le Roi des Ribauds, on voulait vraiment retourner vers du roman graphique et forte pagination. Voilà. Donc, et je pense que c'est pareil pour tous ici. Donc que les formats, chacun les a travaillés en fonction de ce qu'il voulait. Et ça, c'est vraiment un gros plus qu'on peut avoir par rapport à d'autres éditeurs qui vont plus évidemment nous imposer, les formats pour des raisons économiques. Sauf si on commence à avoir un certain nom, une certaine aura qui nous permettent d'imposer ça chez des gros éditeurs. Mais voilà, il faut atteindre ce niveau avant.
Oui, moi justement, j'en profite pour rebondir là-dessus, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire un carnet graphique à la fin de mon album, en fait, qui regroupe plein de croquis et un peu le making-of du livre, qui est quelque chose que je trouve qui est assez relativement rarement proposé à la fin des BD. Or, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans le travail d'un auteur. Je trouve vraiment dommage que les éditeurs ne prennent pas plus le temps de montrer vraiment qu'au final, la bande dessinée telle qu'elle sort, c'est que la partie émergée de l'iceberg, ce qui est un travail en amont énorme qui est fourni. Et justement, le carnet de croquis, voilà, permettait de montrer ça. Et ça a été vraiment super de pouvoir faire ça chez eux. Donc voilà, ouais, c'est un désavantage.
Vous avez poussé la logique un peu plus loin même. Vous avez sorti des sketchbooks, si je ne m'abuse.
On a sorti des recueils de dessins, ouais. D'artistes, alors soit avec qui on avait travaillé ou plus. Oui, on s'intéresse. On n'avait pas envie de se mettre dans une case, un style précis en BD, ni même se limiter forcément à la BD. Aujourd'hui, tous les artistes qu'on peut rencontrer, et notamment les jeunes artistes, en général, ils ne font pas que de la BD. Et c'est le cas des gens ici présents. Aujourd'hui, quand on est artiste graphique, on peut travailler pour l'illustration, dans le storyboard. Et cette richesse-là, je trouvais que c'était dommage qu'on ne puisse pas l'avoir forcément. Donc, on a fait des rencontres d'auteurs. Bon, le premier gros artbook qu'on a fait, c'était sur Peter De Sève, parce qu'on l'avait rencontré dans une expo, dans une galerie où il exposait. Et il nous a dit, oh, je ferais bien un livre de recueil des dessins. On a dit, pourquoi pas. C'est pour ça aussi qu'on a fait des livres sur le cinéma. Ce qui nous intéresse, c'est, je dis de la manière la plus générale, c'est l'articulation du texte et de l'image. Après, c'est ouvert. Et pour revenir à ce que disait Margot, le rajouter des pages, rajouter des choses en plus, pour nous, économiquement, comme on n'est pas fixé dans un format, on n'a pas des contrats avec un imprimeur où on doit faire tant de tel papier, etc., on essaie vraiment de donner cette liberté, parce que pour nous, ce n'est pas trop compliqué à faire. Il faut qu'on s'adapte à chaque auteur, mais comme on n'en a pas 200 à publier chaque année, ben on essaie d'avoir cette disponibilité, de leur dire oui, ça on peut. Des fois, on a des contraintes techniques ou matérielles qui s'imposent, mais... puis il y a des choses qui changent. Je crois que Edouard, au départ, on avait prévu d'en faire deux, c'est ça. Et puis le deuxième tome s'avérant de plus en plus long, on s'est dit bon, bah, allez, on va en faire trois, quoi. C'est voilà. Et de que ça corresponde, voilà.
Guillaume Griffon.
Ça s'allonge. Ouais,
Guillaume,
ouais.
Guillaume Griffon qui fait Apocalypse
à Carson City et Billy Wilde. Ouais. Donc voilà. Je sais que ce que nous ont dit certains auteurs qui ont travaillé avec nous, c'était aussi que comme on est une structure, bon, on était deux pendant longtemps, maintenant on est quatre avec, avec Diane et Sandrine, c'est que on est relativement disponible, même si on est toujours occupé par plein de trucs, mais ils savent que s'ils appellent, ils vont tomber sur l'un ou l'autre, et il n'y a pas ces filtres. Et puis on est décideur, donc on peut pas dire oui, mais moi j'étais d'accord, mais au-dessus ils n'étaient pas d'accord, et puis il faut que ça passe par le comité de. Enfin voilà, ça fait partie, je crois, d'une manière universelle de ce qu'une structure de taille plus modeste et plus humaine peut apporter à un auteur par rapport à une structure plus importante qui va offrir d'autres avantages. On est bien d'accord, mais pour des jeunes auteurs, je pense que c'est vraiment l'idéal de travailler dans ces conditions afin de pouvoir se développer.
Un peu votre slogan, c'est de dire que vous travaillez, que vous publiez au coup de cœur, en fait, principalement. Enfin, il y a quand même un gros appétit pour le comics américain. Enfin, en tout cas, au moins une certaine sorte. Vous publiez pas forcément de comics de super-héros. Ça doit être un peu difficile, puisque voilà.
C'est même impossible. C'est pas forcément.
Mais par contre, pour le reste, vous faites plaisir.
Ouais. On a la même démarche avec les livres dont on achète les droits. C'est-à-dire, on essaie de faire des choses qui sont pas forcément, qui n'existent pas déjà dans le spectre éditorial actuel. Oui, moi j'aime bien, alors ça il se trouve que c'est plutôt mon côté, moi j'aime bien, depuis toujours j'ai beaucoup aimé la BD étrangère, notamment américaine, et dans ce qu'elle peut apporter de novateur. Hein. Évidemment, le super-héros il est un genre hyper codifié, mais ils ont montré qu'ils avaient une production à la fois dans leur patrimoine, ce qu'on fait aussi, et dans les choses plus récentes, assez audacieuses. Nous on a envie de... Moi, j'ai surtout envie de lire quelque chose que je n'ai pas lu. Je suis un gros lecteur. Enfin, on est tous des gros lecteurs. Et forcément, si c'est juste la ressucée de quelque chose qu'on a déjà vu, bon, je n'ai pas d'appétit en tant que lecteur pour ça. Donc, je n'ai pas tellement d'appétit en tant qu'éditeur. C'est un peu la même logique.
Ouais. Vous allez même jusqu'à faire une sorte de travail patrimonial, en fait, puisque donc, vous parliez de Pogo tout à l'heure. Et même l'édition des EC Comics.
Oui, c'est une vraie madeleine, si j'ose dire. J'ai découvert ces BD, donc les Contes de la Crypte, dont beaucoup de gens ont quand même entendu parler, qui sont des BD des années 50, milieu des années 50 aux États-Unis, qui ont eu un âge d'or qui a duré à peu près 4 ans à peine, puisqu'après il y a eu la censure qui est arrivée, ils ont été lourdement censurés, et donc ils ont quasiment disparu. Mais on va dire que c'est un mini âge d'or comme ça, qui reste très présent dans l'imaginaire des Américains, mais aussi de beaucoup d'autres gens. Et c'est des choses qui avaient été publiées sporadiquement, et je m'étais toujours dit que dès qu'on serait suffisamment... on aurait les moyens de le faire et de le faire bien. Ça faisait partie de mes rêves d'éditeur. Donc oui, ça on continue à le faire.
Et Pogo en particulier.
Alors, Pogo aussi. Pogo, c'est ça a été très peu traduit ou aussi sporadiquement. Et quand j'ai vu qu'il y avait une édition intégrale qui était lancée aux États-Unis, je me suis tout de suite mis en contact avec l'auteur et l'ayant droit, enfin, en l'occurrence la fille de Walt Kelly, pour voir si on pouvait faire ce travail. Là, c'est un gros, gros travail aussi, parce qu'à traduire, c'est très complexe, c'est plein de références, c'est des gros volumes, il y a un gros travail de lettrage aussi. Enfin, bon, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire au début, quoi, parce qu'on est comme les auteurs, on progresse beaucoup. Quand je regarde les premiers albums qu'on a publiés, je dois être à peu près comme les auteurs quand ils regardent leur premier album, je dis « Ah ! Mais comment on a pu faire ça ?» Alors qu'à l'époque, j'étais très fier, hein, mais... Je crois que cette volonté de progresser, elle doit être la même chez l'éditeur que chez l'auteur. Et se fixer des objectifs, se dire voilà, bah, ça c'est des projets que j'ai envie de faire. J'ai envie de continuer à travailler avec les auteurs qu'on a aidé à faire connaître. Voilà, c'est cette envie d'aller encore un peu vers l'avant.
Une autre composante de votre catalogue, mais plus thématique en fait, qui m'a sauté aux yeux moi personnellement, c'est l'histoire en fait. Quand je vois Mara, c'est la période victorienne, Héraclès, la Grèce antique, la Seconde Guerre mondiale et puis le XIIe siècle. Il n'y a que Aurélien pour l'instant qui échappe.
Presque contemporain. Là.
Ouais, c'est ça.
Les 90, c'est pas encore très, très vieux.
C'est ça.
Ça, c'est
ça, va changer,
ça va changer. L'âge de bronze a été chez nous, mais je pense en général un succès de votre catalogue. J'ai quand même l'impression que vous aimez beaucoup, beaucoup l'histoire, quoi.
Oui, mais de toute façon, oui, on aime beaucoup l'histoire. C'est de toute façon, c'est notre formation avec Emmanuel. On a tous les deux fait une fac d'histoire. Lui a poussé un peu plus. Mais pour le coup, je sais même, je pense pas que ce soit volontaire, que ce soit une. C'est pas on a déjà évoqué l'idée de faire des séries concepts ou des choses orientées historiques, mais pour le coup, ce qu'on a, le fait qu'on publie Héraclès, qu'on publie le Roi des Ribauds, ce genre, ou l'Âge de Bronze, ça part pas de cette volonté de répondre à notre sensibilité pour l'histoire. C'est assez inconscient, finalement.
Mais ça y joue.
Ça joue de toute façon, ouais. Sûrement, parce qu'on est sensible à ça. Mais voilà, ce n'est pas une volonté affichée de faire de la BD historique ou à contenu historique.
Ouais. Je vais rebondir sur un autre exemple à propos d'Aurélien, justement. Bon, c'est une ambiance, on a souvent dit à propos de son ouvrage, Lovecraftienne.
Oui.
Voilà, nous, on a fait des adaptations de Lovecraft. Je suis un gros fan de Lovecraft.
Ça se sent aussi. Ouais.
Donc, inévitablement, il se trouve que c'est bizarre, ça m'a parlé, quoi. Mais j'allais dire, c'était pas... C'est presque en conséquence et pas en cause, quoi.
Je comprends. Alors, pour les auteurs, donc, pourquoi l'histoire, alors? Pourquoi cette période et...
Ça dépend. Moi, je travaille avec un scénariste qui a aussi le même style de formation d'histoire que Richard Emmanuel. Donc lui, naturellement, il va piocher ses sujets d'histoire et ses inspirations dans la masse astronomique de magazines et de livres qu'il lit là-dessus. Par exemple, Laura des Ribauds, c'est né comme ça, en fait. Hein. C'est un entrefilet dans Les Rois Maudits, dans le livre 7, où on évoque la charge du roi des Ribauds. Et là, Vincent, ça l'a fait tilter. Et puis, il m'en a parlé. Et moi, j'ai vu aussi tout le potentiel graphique que je pouvais amener. Sachant qu'on reste pas dans un... On n'est pas non plus historique classique. C'est-à-dire qu'on est vraiment la petite histoire dans la grande histoire. Et on exploite toutes les zones ombres de l'histoire. Ce qui nous permet aussi, enfin, en tout cas pour moi, ça me permet d'être beaucoup plus créatif sur certains des aspects et d'inventer des choses, ce qui me va aussi beaucoup dans la manière dont je travaille et dont j'ai envie d'évoluer, en fait. Faire quelque chose de purement historique dans les grandes règles de l'art, la grande continuité, grande BD historique, je pense que ça m'emmerderait un petit peu. Mais justement, y apporter un petit aspect, un petit angle de vue un peu novateur, un peu original et puis un peu créatif, justement exploiter ces zones d'ombre, là, c'est beaucoup plus passionnant. Et la preuve, même Bloc 109, c'est une uchronie, donc c'est pas historique, même si ça s'inspire d'une ambiance historique. Après, on imagine complètement ce qui se serait passé, donc...
Il faut quand même avoir une base historique très solide.
Voilà, mais ça, moi, je me base sur les connaissances de Vincent. Et après, là-dessus, moi, je viens faire ma doc. Et en tout cas, pour le XIIe siècle, la doc est astronomique aussi, parce qu'il y a des tas de groupes de reconstitution, il y a des tas de bouquins, il y a des tas de choses comme ça. Donc, il y a des films aussi. Moi, j'ai beaucoup re-regardé Kingdom of Heaven pour voir comment les acteurs portaient les costumes, pour pouvoir faire vivre ça dans la BD. Et puis quelque part, il y a aussi un peu de Game of Thrones parce que y a aussi quelque chose que je voulais réinstaurer dedans. Donc bon, voilà, ça fait partie des choses. Mais bon, après, c'est vrai que l'histoire, même nous dans les projets futurs qu'on fera avec ou sans Aquilios, elle sera toujours importante parce qu'il y a toujours énormément de choses à faire. Mais on s'interdit pas d'autres choses complètement différentes, de la SF. Le contemporain, sûrement moins. Par contre, c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, ça nous tente un peu moins. Mais bon, c'est comme ça.
Édouard ?
Allons-y. Alors, moi, déjà, un truc auquel je pense, c'est que finalement, c'est presque compliqué de ne pas impliquer l'histoire quand on raconte une histoire, à moins de faire un truc contemporain. Mais finalement, même la science-fiction va peut-être finir même par s'inspirer d'une époque du passé. Donc, à part le contemporain, on est toujours forcé d'un petit peu se documenter ou de voir pour des vêtements, pour des architectures, pour des choses, s'inspirer de quelque chose ou mélanger des époques. Donc en fait, l'histoire, c'est quasi inévitable. Ce serait dur de trouver finalement tant de BD que ça qui ne l'utilisent pas. Après, dans le cas d'Héraclès, qui est moi pour l'instant la seule chose que j'ai prévue, j'ai quand même pas mal fait l'impasse sur la documentation pure et dure, justement sur les techniques de construction, de vêtements, de les objets, etc. Parce que ça m'aurait rajouté une couche énorme. Je n'ai pas un historien avec moi qui sait où aller chercher ça et comme ça. Donc j'ai beaucoup là-dessus, moi, joué sur une sorte d'imaginaire collectif, mais finalement, c'est aussi une réflexion sur l'histoire. Puis je suis allé sur place pour voir un petit peu. Mais voilà, je pense qu'on est toujours inspiré par une période historique et après, on la creuse plus ou moins. Ça dépend si on veut raconter l'histoire ou si on veut l'utiliser comme lui, il fait plutôt. Voilà.
Le maître mot, c'est s'amuser. Hein.
Mara.
Moi, c'est simplement parce que je lisais énormément de Sherlock Holmes quand j'étais plus petite. Et en fait, l'époque victorienne, j'ai toujours aimé ça, depuis l'âge de 13 ans, 13-14 ans. Et quand j'ai commencé à avoir les premières idées pour mon histoire, ça s'est imposé de lui-même de se passer à cette époque-là, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai pas voulu faire quelque chose d'historiquement correct non plus, mais d'immédiatement reconnaissable. C'est-à-dire que dès qu'on ouvre ma BD, on sait qu'on se trouve dans le monde victorien, mais sans non plus tomber dans quelque chose de trop recherché, parce que justement c'est une masse de travail incroyable. Et c'est vrai que dès qu'on commence à vouloir faire dans le réaliste un petit peu, on peut pas s'amuser à faire un petit truc réaliste, voilà, faut pas le faire, on peut pas le faire à moitié, en fait. Donc du coup, moi, je me suis dit, bon, la période victorienne, c'est une période qui est pleine, comme plein d'autres périodes de l'histoire, qui sont pleines de codes, en fait, qui sont des clichés, en somme. Enfin, même si cliché, je trouve que ça a une connotation un peu plus négative que code, je préfère dire code, et en fait, avec lesquels on peut vraiment s'amuser, et puis pour créer une ambiance qui est immédiatement reconnaissable comme étant la Londres victorienne, quoi.
Vous avez quand même pas mal travaillé sur les costumes.
Oui, sur les costumes beaucoup. Mais en même temps, il n'y a aucun des costumes dans le bouquin où c'est vraiment une reproduction exacte d'un costume que j'ai vu dans un magazine. En général, j'ai à peu près deux ou trois étagères grandes comme les cubes là-bas, remplies que de bouquins de costumes de l'époque. Et en fait, ce que je fais, c'est que je les regarde pendant quelques minutes et tout. Et après, je les referme et après, je dessine ce qui me vient, en fait. La seule chose que je me suis un petit peu imposée par rapport au costume, c'est que j'avais une date quand même précise où commençait l'histoire. En fait, j'ai quelques dates dans mes bouquins. Et c'est vrai que les costumes à cette époque-là, notamment ceux des femmes, changeaient très rapidement. Donc une robe de 1905 n'a rien à voir avec une robe de 1895. Donc du coup, il fallait quand même faire un peu... J'ai eu envie de faire un petit peu attention à ça quand même aussi, pas faire n'importe quoi, mais en me laissant quelques libertés aussi pour pouvoir faire un peu... S'amuser, comme disait Ronan, s'amuser, c'est le maître mot, en fait. Voilà.
On va dire le dynamisme de votre personnage principal, enfin ça se l'époque se prêtait bien pour le contraste en fait.
Voilà, ouais, tout à fait aussi. Ouais, c'est vrai que mon personnage féminin, personnage principal d'Émilie, est assez dynamique et assez moderne en fait dans sa façon d'être. Et j'avais justement envie qu'elle contraste vraiment, enfin les pleines de, enfin même dans le design en fait, elle a un côté très rond. Elle a pas les cheveux attachés comme à l'époque où notamment les femmes à l'époque elles s'attachaient les cheveux. Voilà, elle s'habille un peu comme elle veut. Bon, elle va pas jusqu'à porter des pantalons, à part dans le dernier, mais voilà, elle est quand même un petit peu. Elle a quand même un côté où elle garde ce côté femme de l'époque, notamment visuellement, mais au niveau du caractère, c'était. Je pense que le côté un peu moderne, justement, évite de trop s'enfermer dans quelque chose de trop classique aussi. Voilà.
Oui, parce que dans les premières pages, avec sa première rencontre avec Hawkins, donc ouais. elle a des brochures féministes qui débordent de son sac qu'elle a attrapées dans la rue.
Voilà, que quelqu'un lui a donné, ouais, en fait.
Et donc elle tient tout de suite à préciser que non.
Elle précise, parce que je voulais justement pas que les gens fassent l'amalgame en se disant oui, bon, alors typiquement, une nana à l'ère victorienne qui veut devenir une femme policier, c'est automatiquement une féministe. J'avais pas envie que ça devienne tout de suite ça, mais j'avais envie qu'elle soit féministe dans les actes, en fait, et pas dans les paroles, que ce soit pas en train de se revendiquer comme telle, mais juste elle fait les choses, en fait, tout simplement. Elle se pose pas la question, est-ce que je suis féministe ou pas? C'est juste, elle a un but, elle a des objectifs qu'elle veut remplir, et elle fait tout pour qu'elle soit un homme ou une femme, en fait, ça change pas, en fait. Voilà.
Très bien. Et toujours dans ce qui structure, il me semble aussi, donc le polar, le roman policier, l'intrigue policière est quand même très présente aussi dans votre catalogue, dans vos histoires.
Oui, alors là, on n'a pas une formation de policier. Non, non. Je précise quand même, ni de criminel.
Ni de criminel.
Maître chanteur un peu.
Ouais, ça, c'est le métier qui veut ça. Non, bah après oui, c'est forcément là un goût personnel de lecteur dans le cinéma, le roman, etc. Le thriller, voilà, c'est vrai que par exemple, le Emprise d'Aurélien, c'est un mélange d'ambiance lovecraftienne, de thriller.
Et pour le coup, je suis dans le polar là, sur celui-ci. C'est vrai que j'avais pas fait le rapport non plus avec la ligne éditoriale vraiment. Je pense, mais le thriller, le polar, je crois que c'est un élément qui fédère vraiment le lecteur. C'est l'enquête, c'est le suspense, c'est les rebondissements, tout ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que nous, en tant que lecteur, on a envie de le lire. Et
c'est tout ça et c'est l'humain, quoi. Enfin, ce qui est passionnant. Voilà. Oui. En général, dans les très bons polars. C'est qu'est-ce que ça nous fait découvrir des personnages parce que c'est des situations extrêmes et en même temps on a envie de comprendre comment ça se passe dans leur tête face à un environnement qui lui est très codifié, mais finalement ça ouvre plein de portes dans les meilleurs exemples de ce type de récit. C'est quelles portes ça ouvre dans le...
Et ce qui est intéressant, je veux dire, par rapport à ça et par rapport à Kileo, c'est qu'il nous laisse la chance aussi de pouvoir développer cet aspect. Les personnages, l'intrigue, parce qu'on n'a pas vraiment de limite de format, au nombre de pages. Et c'est vrai que le format 46 pages, bande dessinée classique, ça peut être contraignant. Et quand j'ai commencé à écrire Emprise, je sentais tout de suite que ça ne tiendrait pas dans un 46 pages. Mais je vois qu'au fur et à mesure même, c'était prévu pour faire 100, 120 pages, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, je vois que pour développer vraiment l'intrigue comme il fallait, pour que ça tienne debout, pour que la narration soit équilibrée, que le rythme soit bon, il fallait que je rajoute des pages. Au bout d'un moment, j'ai dû le faire et j'en parle à mon éditeur et il me dit « Ok, pas de souci, quoi. » Et ça, c'est vrai que c'est vachement appréciable. À ce niveau-là. Bon, après, ça dure un petit peu plus longtemps au niveau de la réalisation, ça c'est autre chose, mais ils savent qu'à la fin, il y aura un produit qui aura une certaine... Enfin, le but, c'est que ce soit de la meilleure qualité possible, quoi.
Enfin, en même temps, il n'est pas très difficile de refuser un auteur plus de pages. C'est lui qui bosse, pas nous. Mais de toute façon, l'idée a toujours été celle-là, c'est d'avoir à partir du moment où on adhère à un projet... nous, on est après au service de l'auteur pour lui fournir le meilleur réceptacle possible. Donc l'ouvrage, le bouquin tel qu'il le souhaite, tel qu'il le veut, au format, à la pagination, et qui de toute façon répond à son projet. Si c'est juste par plaisir qu'il veut que l'auteur souhaite faire un format à l'italienne, ce sera non. Mais si ça se prête, bien sûr.
De toute façon, on a tendance à penser tous les deux que le rôle d'éditeur en tant qu'intervenant créatif, moi je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas scénariste, on a un rôle de premier lecteur d'abord, et je dirais que le seul aspect vraiment technique sur lequel on peut donner un avis un peu averti, c'est sur la narration justement, c'est ce que tu disais, le rythme. Et donc quand Aurélien nous dit il va manquer des pages, normalement on arrive à peu près à la même conclusion, c'est que oui, on ne va pas pouvoir... sortir le chausse-pied et tout faire rentrer donc moi j'allais dire que voilà notre travail créatif, la petite partie créative de notre travail, c'est justement de donner un peu de conseil à ce niveau-là si besoin est, et de donner la latitude dans cette partie-là narrative s'il y a besoin, quoi.
On a les livres qu'on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a les livres qu'on veut, qu'on travaille dans le fond, dans la forme. Parce que Aurélien, je m'avance pas, mais tu voulais un one shot parce que l'histoire aurait bien pu rentrer dans le format 46cc classique, qui est un format économique, surtout rentable pour la plupart des éditeurs. Mais du coup, en 4 ou 5 tomes. Mais évidemment, c'est pas du tout la même manière de mener les choses. Mais bon, c'est tout vous ça. Mais par contre, dans la volonté de faire quelque chose, une lecture dense, et d'ailleurs, c'est bien mieux comme ça, parce que moi, je l'ai pas lâché, hein. 3 heures de lecture. C'est la même logique qu'on a, nous, en faisant nos bouquins, c'est que les gens aient une grosse matière et ne lâchent pas pendant un sacré temps de lecture. Après, effectivement, c'est pour nous, auteurs, c'est du boulot, c'est beaucoup de temps de production et c'est un investissement. Mais derrière, il faut toujours se dire qu'on peut aussi gagner. Et souvent, ça gagne. Alors, en tout cas, avec Aquilios, on n'a pas trop eu à se plaindre.
En plus, on pourrait demander aux gens ici présents, mais je pense que le sens de l'histoire, si j'ose dire, c'est que les gens ont envie d'avoir une histoire complète, ou en tout cas une idée que ça va bientôt se terminer, pas... Alors, ça va être une série en 18 tomes, mais ça commence qu'aujourd'hui.
Ouais, le libraire vous le confirme aussi.
Voilà. Mais même nous, alors après, même économiquement, on le voit, quoi, on arrive mieux à capter, notamment à faire découvrir des jeunes auteurs, ce qui est encore une fois l'idée, si on propose quelque chose qui est relativement abouti ou qui permet déjà, comme par exemple pour Héraclès, avec un premier tome, de vraiment se faire une bonne idée de ce que c'est et en sachant, en annonçant nous dès le départ, il va y avoir, bon là on avait dû vaguement annoncer deux tomes et finalement c'était trois. Mais enfin bon voilà, on n'est pas parti sur quelque chose de... Et c'est vrai qu'on a tendance à encourager les auteurs qui nous soumettent des projets, s'ils n'ont pas une idée fixe, de leur dire, bah, essayez de faire soit une histoire complète, soit peut-être en deux tomes, pour essayer de... Bon, Margot c'est différent parce que c'était déjà dans ton esprit, je pense, un format relativement classique au départ, mais on a rajouté les carnets de croquis, donc ça restait dans un cadre assez précis, mais il t'a rajouté un tome aussi, puisque le troisième tome qui est un flashback, au départ il devait y en avoir trois.
Oui, au départ il devait y en avoir trois, parce qu'en fait, oui, comme disait Emmanuel, le tome 3 est un flashback qui se passe environ une vingtaine d'années auparavant, et en fait qui se concentre sur le passé d'un des personnages principaux. Et le truc, c'est que quand j'ai commencé à découper le tome 3, qui devait être le dernier au départ, je me suis rendu compte que les scènes de flashback dedans prenaient quasiment un tiers du livre. Et ça n'allait pas du tout. Je me rendais compte qu'il y avait un problème, que ça cassait la narration, cassait le rythme. Et j'ai un de mes amis, en fait, qui m'a conseillé, qui m'a dit « Ah, si tu faisais un truc un peu, peut-être un peu risqué, mais qui pourrait être pas mal, c'est que tu fais un tome flashback et tu fais un quatrième tome après qui reprend là où le deuxième s'est terminé. » Et au début, je n'étais pas du tout d'accord avec lui, en fait. Je trouvais que c'était une très mauvaise idée et en fait, il a réussi à me convaincre. Alors je me suis dit, bon, de toute façon, c'est les éditeurs qui vont avoir leur mot à dire là-dessus, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Et en fait, ils ont tout de suite été emballés. Je communiquais beaucoup avec Richard, en fait, là-dessus. Et c'est lui qui m'a dit qu'il trouvait que c'était une bonne idée. Donc, on est parti là-dessus. Et c'est vrai que moi, j'ai voulu garder un format de 46 pages. C'est vrai que je pense que, comme disait... c'était toi, hein, qui disais que justement, on pouvait faire les formats qu'on voulait, hein, c'est ça ? Ouais. Enfin, la taille qu'on voulait de livre. Moi, j'ai gardé 46 pages parce que je voulais me mettre une contrainte, en fait. Je voulais me dire, OK, voilà, parce que j'ai tendance, je le sais, que si on me dit, ben, tu fais ce que tu veux, tu le fais en autant de pages que tu veux, ben, ça aurait fait 600 pages. Et donc, j'aurais pas... en combien de temps ? Ben, justement, c'est ça le problème aussi, donc voilà. Et donc, du coup, justement, je me suis mis le défi de faire des 46 pages à chaque fois, ce qui n'a pas été toujours... très simple, mais en même temps, ça m'a forcé aussi à travailler ma narration pour faire des ellipses au bon moment, tout ça. Bon, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent moins, selon moi, voilà. Mais en même temps, voilà, c'était assez chouette de se dire, voilà, je vais le faire en 46 pages pour pouvoir voir ce que je peux faire avec 46 pages, en fait, avec mon histoire. Voilà.
Quand je regardais, en fait, à part Ronan, qui est un scénariste, donc, Aurélien, Édouard et Maroc, vous assurez autant le scénario que le dessin. Et donc, je me demandais, du coup, en plus, c'était vos premiers projets, est-ce que, du coup, l'éditeur a pris une place particulière, finalement ? Ou pas ?
Ben, moi, pour ma part, en fait, oui, c'était bien parce qu'en fait, ce qui est bien dans une structure comme Aquilios, c'est qu'on est suivi, on peut être suivi de très près. C'est-à-dire que l'éditeur va être très réactif, ce qui n'est pas le cas dans les plus grosses boîtes en fait, d'édition où les éditeurs n'ont pas le temps de s'occuper. Ils ont 40, 50, 100 bouquins à gérer en même temps. Enfin, peut-être que j'exagère, mais en tout cas, ils en ont beaucoup plus qu'eux. Et j'exagère pas ?
Ah, non,
ah bon, d'accord, ok. Et en fait, du coup, voilà, moi je communiquais beaucoup avec Richard sur l'aspect justement storyboard, tout ça, scénario. Et voilà, et c'est vrai que j'ai pu bénéficier de retours très constructifs sur mon travail. Et donc, les bouquins ont été, surtout au début, hein, peut-être un peu moins sur les derniers, mais au début, j'ai été vraiment très suivie et c'était vraiment très chouette d'avoir cette possibilité-là, hein, de toujours avoir l'éditeur derrière qui a un avis, voilà.
Après, comme tu dis, ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir faire, je pense, en tant qu'éditeur, c'est savoir intervenir et savoir ne pas intervenir. Ouais. Le danger, c'est de justifier son boulot et de se dire, oh là, il faut que je dise quelque chose parce que nous, il nous est arrivé plein de fois, enfin, c'est plutôt Richard qui fait le suivi éditorial maintenant, mais il est aussi arrivé plein de fois, on reçoit les planches, ah oui, c'est super, oui. On envoie un mail, bravo, ou on téléphone, on dit super, continue, quoi. Et des fois, il n'y a rien d'autre à faire que ça, quoi. Et il faut savoir se dire, bah oui, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Et puis,
Mais même avec un scénariste, le regard de Richard, surtout de Richard, parce que c'était surtout avec lui qu'on était suivi, a été plus que nécessaire. Bon, plein de, parce qu'au final, nous aussi, on a appris notre métier. Tous les deux, que ce soit Vincent sur le scénario et puis moi sur la narration, en faisant des albums et en échangeant avec Richard et Manuel. Et il y a certains autour d'une pizza d'ailleurs souvent, des moments qui ont été déclencheurs et qui ont été et qui ont décoincé des situations et qui étaient vraiment salutaires. Donc au final, même à deux, on peut aussi s'enfermer dans une salle obscure et n'a pas arrivé à voir la sortie. Et heureusement qu'il y a un éditeur qui est là pour ouvrir la porte.
Oui, puis je peux remercier aussi Richard d'avoir eu quelques très bonnes idées pour les dialogues, notamment sur les deux premiers tomes. Parce que je lui ai envoyé les dialogues. Les choses ont un petit peu changé sur les autres, le troisième et le quatrième tome, où j'ai été un peu plus à faire les trucs dans mon coin. Mais ouais, j'ai eu Richard Matogbenzama a quand même été à l'origine de quelques très bonnes trouvailles au niveau des dialogues. Alors je l'en remercie.
Aurélien,
pour moi, ça s'est passé un peu de la même façon. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu pour un premier bouquin, parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé à la base. Et j'étais pas encore sûr de moi, parce que finalement, on s'est tous retrouvés, je pense, à apprendre sur le tas. C'est obligé. Pour un premier album, on découvre, et pas seulement pour le dessin, justement, enfin, dans le cas où on fait le scénario, il y a aussi le côté narration, dialogue, tout ça. Et donc ça fait beaucoup d'aspects différents qui doivent être à chaque fois le mieux possible, parce qu'on a. Et c'est vrai que là-dessus, on a, bon, au niveau graphique, on a déjà un petit peu moins de retours par les éditeurs, parce que bon, voilà, c'est pas forcément. Mais au niveau narration, au niveau donc du découpage, au niveau des dialogues, là c'est vrai que tout en restant. J'ai senti qu'il y avait vraiment une confiance. Et en même temps, voilà, quand ça n'allait pas, l'éditeur est là. Et il y a moyen de discuter, quoi. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment, c'était super appréciable.
Après, juste, ça me fait penser, parce qu'en plus, Aurélien, il vit un peu dans le trou du cul du monde tout seul. Mais je pense que, voilà.
Hey,
non, mais c'est vrai. Toi t'es plus isolé quand même d'une communauté d'auteurs que je pense certains ici ont peut-être, ou en atelier, toi, t'as du monde, voilà. Ouais, peut-être pas toi, moins. Hein. On a pas mal d'auteurs qui s'isolent de plus en plus. Mais du coup, je pense que justement, ce qui peut aider les auteurs qui se sentent un peu aussi... Et puis toi, t'es parti dans un projet vachement long. Et je me souviens qu'en fait, Aurélien faisait des trucs super des fois. Enfin, je pense que tu valideras. Moi, je suis arrivée plus sur les parties où vous aviez déjà discuté de la narration, tout ça. Donc tu nous refaisais valider des trucs super. Juste, je pense aussi, parce que t'avais plus de recul et que t'avais besoin d'avoir un regard extérieur en plus. Enfin, c'est un regard salutaire aussi, parce que l'auteur, il a besoin d'avoir... aussi juste quelque chose d'extérieur.
Ah oui, puis il faut, je pense, parce que pour un premier album, je n'avais pas la prétention de me dire, ah ben voilà, c'est bon.
Mais comme disait Emmanuel, il n'y avait pas forcément besoin, en fait.
Mais non, je pense que c'était nécessaire. En tout cas, moi, ça m'a aidé à avancer, parce qu'il y a des moments où, voilà, comme j'étais tout seul, j'avais peur de mal faire, ce qui n'était pas forcément le cas, mais... Oui. Et ça permet de débloquer, voilà.
Mais en fait, il y a une grosse phase de soutien psychologique aussi, Richard. Hein ? Non, mais c'est vrai. Enfin, je pense qu'il y a aussi parfois besoin de rassurer des auteurs en fait qui font un truc super et qui ont juste besoin qu'on leur redise. Oui. Parce que... Ben oui, hein, Margot. Non, mais enfin, moi j'ai l'impression de l'avoir souvent fait, moi. Mais c'est peut-être parce que Richard avait passé les difficultés avant, mais. Mais en même temps, je comprends tout à fait. Et je suis contente qu'on puisse être disponible et qu'on prenne toujours le temps d'être disponible.
Mais au téléphone, hein, parce qu'avec Richard, par mail, c'est moins un soutien psychologique.
C'est un peu laconique. Non, mais on a tous besoin de cette... l'auteur a besoin de cette approbation. Nous, quand on reçoit des messages de lecteurs qui nous disent « Ah, on a vraiment aimé », bah, ça fait, c'est pareil, c'est super. Quoi. C'est pas, on se dit qu'on n'est pas juste dans son coin à faire son petit projet qui nous fait plaisir.
Ouais, ouais.
Ouais.
Parents.
Ouais, s'il te plaît.
C'est nous les parents. Les parents libres et vous êtes les grands-parents.
Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est pour ça qu'ils dorment ensemble à l'hôtel. Hein.
Moi, j'ai juste envie d'ajouter un petit truc. Bon, pareil, ça m'a beaucoup aidé de parler des dialogues, de découpage, etc. Effectivement, il y a aussi d'autres gens à qui on peut demander des conseils, mais les conseils quand même de gens qui prennent un risque financier et un risque de... Bah, c'est leur carrière aussi qui est en jeu quand ils sortent un bouquin. Donc forcément, on sait qu'eux, ça va être ceux qui vont oser dire là, on pense que ça ne marche pas. Par contre, leur force, c'est qu'ils ne vont jamais dire ça, nous, on pense que ça ne marche pas, donc tu fais autre chose. Ils disent juste ça et après, ils voient ce qu'on fait. Donc ça, ça rassure. On se dit qu'on garde la main. Et le dernier truc, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On parle directement aux fameuses deux personnes qui font les commentaires. Alors que chez d'autres, j'ai souvent entendu dire que finalement, c'est un commercial qui va dire qu'il y a quelqu'un plus haut qu'on ne saura jamais qui c'est, qui a dit ça, ça ne va pas, il faut changer. Donc voilà, là, on est directement avec eux et forcément, on avance beaucoup plus vite. Et on sait ce qu'ils veulent. Et au bout d'un certain temps, on n'a presque plus besoin de leur demander parce qu'on sait, bon, ça, ça ne va pas leur aller. Enfin, voilà.
C'est ça, vous êtes, les éditeurs vous soutiennent et vous êtes aussi confrontés à l'exigence de l'éditeur. C'est une pression aussi, sans doute.
C'est une exigence, c'est une cohérence. Quoi. D'où la confiance, elle va dans les deux sens, je pense. Et j'ai aucun regret. Quoi, pour ce... enfin, là, je sais que quand j'ai modifié quelque chose dans mon bouquin, parce qu'on me l'a dit, parce que je sentais que c'était pertinent, quoi, j'ai aucun regret.
Ils ont souvent raison, en plus.
Alors, moi, je pars du principe qu'on a toujours raison, de toute façon.
Non, c'est qu'on n'a jamais tort.
Surtout.
L'exemple type qu'on donne souvent, c'est les couvertures, parce que c'est vrai que s'il y a un endroit où effectivement on peut être amené à faire des compromis, ou en tout cas d'avoir une perspective qui n'est pas forcément uniquement celle de la narration et de la créativité, la couverture, c'est quand même un peu ça. Donc il nous est arrivé parfois, bon, Guillaume n'est pas là, mais c'est vrai que lui, c'était assez spectaculaire, je crois que c'était sur Billy Wilde, son premier projet. Je ne sais pas combien de couvertures il y a eu. Et là, alors, comme on ne veut pas dire « fais ça », on dit « non, ça, ça ne va pas ». Et puis après, on arrête là. D'accord. Donc, il y en a qui disent « super, je vais faire un ou deux autres projets ». Et donc, on a envie plutôt de réagir à ce qu'ils nous proposent plutôt que d'imposer. Bon, après, si il peut nous arriver, ça arrive même à nous d'avoir une idée. Mais sinon... Ça va être ce dialogue-là, voilà. C'est, ah non, nous, on trouve que ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose ? Voilà, c'est un peu le même schéma.
Voilà, plutôt orienté que dire « faites ça ». C'est plus une orientation. Essaye d'aller vers ça. Est-ce qu'on n'irait pas plus sur quelque chose de très... typiquement pour la première couverture de Billy Wilde, qui finalement s'est résumé à une couverture blanche avec trois impacts avec des gouttes de sang. C'était en orientant justement Guillaume, en lui disant non, va vers de l'épure, va vers quelque chose. Tu as déjà un trait qui est très marqué. Quand les gens vont prendre l'album, de toute façon, ils vont avoir une surprise. Donc, on va les attraper autrement. Ouais. On va les amener autrement sur ton album. Donc, essaye de travailler quelque chose vraiment en allant vers de l'épure, de très simple. L'idée est venue comme ça, en fait.
Bah, du coup, l'anecdote sur cette couverture, c'est que j'ai même eu un message, je sais plus c'était au téléphone ou par mail, quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est un scandale, la BD est super bien, mais comment vous avez pu lui laisser faire une couverture aussi on voit rien, on voit pas son dessin. » Je lui ai juste répondu « Mais vous avez pris le livre, vous l'avez lu, vous avez aimé, donc la couverture, elle était bonne. » Voilà, c'est tout. Après, on peut discuter, aimer ou pas aimer, mais c'est vrai que sur ce cas précis, l'objectif, c'est... Non, et je dirais pas ça à un libraire. Le but, c'est quand même que la couverture, elle soit un peu oui. identifiée. Et comme d'une manière générale, voilà, je vais en profiter pour rebondir sur. Dans le métier d'éditeur, on aime évidemment travailler dans l'aspect créatif. On aime sur ce qui va être raconté. Et puis voilà, puis on aime l'objet lui-même. Je crois que tous ici, on aime l'objet lui-même. Moi, j'ai envie, quand un des grands plaisirs, c'est ouvrir les cartons de l'imprimeur et puis voir sortir l'objet, le prendre en main.
C'est un plaisir et une angoisse.
Oui, on parlera pas des...
Ouais, vous avez de nombreux interlocuteurs, donc des imprimeurs, un service, des diffuseurs. C'est des relations parfois compliquées, en fait. Est-ce que vous êtes, par exemple, est-ce que vous êtes satisfait du travail des... Nous, on appelle ça les représentants.
Oui,
voilà.
Ils sont là ?
Non, normalement.
Les représentants, on a forcément... Nous, ce qu'il faut arriver, c'est à les convaincre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'étapes, finalement, que pour faire passer le message... L'auteur veut raconter son projet, il faut qu'il nous le fasse passer. Bon, nous, on est convaincus. Après, on le présente aux commerciaux. On a une réunion de présentation. Donc là, il faut, en un temps très court, il faut les convaincre, comme vous, en un temps très court. Il faut qu'ils arrivent à vous convaincre, en sachant qu'ils n'ont pas toujours beaucoup d'éléments. Il y a des choses qui changent. Et des fois, c'est quand le livre arrive qu'on se rend compte que ça va accrocher. Voilà, c'est pas une science exacte, et heureusement. heureusement. Moi, j'ai le grand plaisir de ce métier aussi, c'est que chaque projet, chaque livre-objet, chaque rencontre va déclencher des nouvelles choses, quoi. C'est ça, ça c'est un vrai plaisir.
Vous publiez aussi de la BD jeunesse, ou à peu près. Vous êtes un peu arrivé là par la bande. En fait, je pense pas que c'était une volonté dès le départ de. Est-ce que c'est Courtney Crumrin qui a un peu initié ça, ou vous êtes découvert des envies par rapport
non,
à...
Non, c'est suite à des découvertes de lecture. Courtney, typiquement, Courtney, en fait, on l'a découvert en même temps que l'âge de bronze. On était chez un libraire spécialisé en comics, en version originale. Et en fait, moi, j'ai dû prendre l'âge de bronze et toi, le Courtney. L'un comme l'autre, on a dit, c'est génial. Tiens, lis ça. Et voilà, c'est parti de là. Et je crois que les titres comme Amulette, ou enfin, les séries comme Amulette, le titre de Reina Sourier, ces ouvrages-là, ce sont des lectures, en fait. Je ne sais plus très bien. Parce que
oui, après, c'est comme tu dis, c'est un peu par la bande. On a aimé un auteur peut nous conseiller aussi un ouvrage. Je sais que l'auteur de L'Âge de Bronze nous avait conseillé Strange Haven. Oui. Vous avez dit, ouais, vous devriez lire ça.
Franchement, je ne sais plus.
Amulette, non, c'est qu'on l'a lu. Et c'est Scholastic qui édite ça aux États-Unis. C'est le plus gros éditeur jeunesse. Donc, bon, a priori, il travaille avec des éditeurs plus installés. Mais nous, on a été les premiers à. Bon, c'est un ouvrage, une série qui est traduite dans beaucoup de pays maintenant. Mais on a eu notre chance, nous, notre force, c'est d'essayer d'arriver les premiers. Parce que sinon. Donc on a fait cette série, puis après ils ont publié les ouvrages de Reina dans leur collection Graphics, ce qu'ils appellent Graphics, donc c'est des romans graphiques jeunesse qui sont au format roman justement, et puis ça nous a plu aussi, donc on a dit bah pourquoi pas, voilà, parce qu'on travaillait déjà avec eux. C'est que des liaisons comme ça, c'est une liaison à partir d'un auteur, d'un éditeur avec qui on travaille. Voilà, bon, il y a des auteurs ici qui. Là, on a fait Brand Zero avec Mathieu Tonon, que tu connais. Voilà, il y a aussi des liens qui peuvent se faire de cette manière-là. Comme on n'a pas, on n'a pas une collection, on ne va pas commander des ouvrages, dire bon, nous, on cherche un dessinateur pour faire tel ou tel projet. Bon, ce qui peut être tout à fait valable, hein, je porte pas forcément un jugement. Mais nous, on fonctionne pas, on n'a jamais fonctionné comme ça, et puis c'est pas le propos. Bah, c'est des rencontres, c'est les projets qu'on reçoit. Là, récemment, on a signé un petit projet, on a signé un projet qui s'appelle La Valise, c'est trois jeunes auteurs. Et je disais à Richard, c'est super, ça me fait vraiment plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas signé vraiment un truc qui, entre guillemets, sortait de nulle part. On faisait d'autres projets de gens qu'on connaissait ou qui nous proposaient des choses. Et là, paf, à nouveau, quelque chose de différent. Un premier projet de trois auteurs. Et voilà, c'est toujours agréable de faire ça.
Donc voilà, mais continuez de lire la BD contre vents et marées, ça me paraît une assez bonne conclusion. Et voilà, en particulier celle d'Aquileos et des auteurs présents, que je remercie d'avoir participé à cette rencontre avec vous. Merci à tous. Merci.